Je vais essayer de, je crois sans difficulté, de m'inscrire dans les propos précédents d'un point de vue, alors qui est un point de vue assez particulier, celui, je ne sais pas si vous dire, d'une école de recherche, en tout cas d'un réseau qui est le réseau Reseda. Je ne sais pas si ce nom vous est familier. Ça s'écrit comme Reseda, mais il y avait un i au milieu qui n'est pas dans ce qui fait contraste avec la rose d'habitude, parce que ça veut dire inégalité. Voilà, c'est un réseau sur l'école, la socialisation, les inégalités d'apprentissage. Il existe quelques réseaux en éducation, il y a RESUP, réseau sur l'enseignement supérieur, etc., qui ne sont pas des laboratoires de recherche, mais qui ont été une manière à un moment de vouloir fédérer d'une façon moins rigide que les laboratoires de recherche, des travaux qui avaient des airs de famille, hein, et qui permettaient à des gens de se retrouver, d'échanger autour de ça. Tout ça pour dire que le bouquin La construction des inégalités est l'émanation du travail de ce réseau, donc les personnes qui l'ont fait son Jean Hirochek et Jacques Crinon. J'interviens pas moi dans ce livre, je suis d'autant plus à l'aise pour en parler, d'ailleurs pas pour en parler longtemps, mais après je vais parler de moi comme d'habitude. Je vais simplement essayer de dire, de gloser un peu ce qu'a été le postulat de ce livre dans sa manière d'approcher ces phénomènes-là. Et vous aurez sous la main demain Jean-Yves Rochex, qui est un des vrais auteurs de ce livre-là, et que vous pourrez écouter et interroger sur le bouquin lui-même. Dans le sous-titre, hein, qui m'avait été suggéré, puisque là je vais vous parler d'un travail qui est celui que j'ai conduit et que je conduis encore sur la question de l'externalisation du travail scolaire, c'est une manière un peu particulière d'essayer de prendre cette question des inégalités scolaires, étant entendu que tout zoom participe lui-même d'un objectif, d'un oculaire, d'une focale, enfin je suis pas très bon en optique, mais vous voyez bien ce que ça veut dire, qui signifie que dès que la recherche éclaire un objet, comme aurait dit Bachelard, à partir d'un angle particulier, elle en laisse d'autres dans l'ombre. Donc il faut être à la fois extrêmement opiniâtre dans nos travaux, mais modeste dans les résultats. Ce que je dis là n'épuise pas évidemment la réalité du phénomène travail externalisé, ni non plus, a fortiori, la question de la construction des inégalités scolaires. Alors, je vais quand même regarder l'heure, parce qu'il faut me tenir à l'œil.
Juste à l'heure pile, je
Bon.
commence à 10h30.
Et jusqu'à quelle heure, monsieur?
On a jusqu'à midi,
Ok.
discussion comprise, donc c'est assez royal.
Quel luxe, quel luxe. En plus, un public captif que je vais pouvoir ennuyer pendant 1 heure, c'est absolument génial. Voilà, donc le schéma que je souhaite suivre. D'abord, présenter le modèle, hein, d'analyse qui est celui du réseau Reseda et de cet ouvrage, qui consiste à dire que la production des inégalités scolaires, hein, peut être approchée d'un double point de vue que nous essayons de tenir, et qui n'est pas si évident, je pense, et si ordinaire, qui est de regarder à la fois ces choses-là d'un point de vue relationnel et d'un point de vue contextuel. Souvent, dans les sciences de l'éducation, on a plutôt un mouvement de balancier selon qu'on est dans le relationnel ou au contraire dans le contextuel. J'essaierai d'en dire quelques mots. Le deuxième point, c'est que une des façons dont nous regardons cette construction des inégalités scolaires, qui sont pour nous vues à travers surtout la question des inégalités d'apprentissage, puisque c'est quand même pour nous de cela qu'il s'agit à l'école, hein, ce qui ne discrédite pas le reste de la sociologie, qui en effet, de manière un peu plus classique, regarde les histoires d'héritage et de capitaux. Nous regardons ça par la notion que nous essayons de travailler, qui est la notion de malentendu. Et dans son acception développée de malentendus dits socio-cognitifs, puisque pour nous, ces malentendus viennent principalement de l'interférence de deux logiques, hein, qui ont chacune leur légitimité, leur raison d'être, mais qui, à un moment donné, se croisent de façon pas toujours favorable, et de la même manière pour les différents types d'élèves qui se trouvent dans les écoles. Le troisième point sera la présentation d'un cas, donc là c'est un travail qui est plus personnel, sur quelque chose qui paraît tout à fait important aujourd'hui dans la scolarité des élèves, qui est le fait qu'ils soient autonomes. On s'attend à ce qu'ils soient autonomes, on déplore qu'ils ne le soient jamais assez. Mais évidemment, cette demande pour les élèves et cet objectif s'inscrivent dans une optique générale d'autonomie des individus dans nos sociétés, Dans le cas précis du travail des élèves, il se trouve, de mon point de vue, mais pas seulement, que leur travail, je dirais ce qu'on considère comme étant leur vrai travail, est largement externalisé par rapport au cœur des apprentissages dans la classe, et se trouve être précisément le moment où ils sont censés être autonomes, ce qui, selon nous, ne va pas sans poser de difficultés. Voilà donc pour le programme. Quelques mots sur cette approche relationnelle et contextuelle, pour lesquelles là je vais m'aider un peu du texte qui est celui de l'introduction de cet ouvrage, pour essayer de ne pas lui être infidèle. Donc le premier point, si vous voulez bien, c'est la question relationnelle, qui me paraît renouer d'ailleurs avec les propos précédents, au sens où il nous semble qu'il faut, pour regarder cette question des inégalités, ne pas être dans cette position un peu simple, voire simpliste, qui consisterait à dire que les constructions d'inégalités sont des constructions qui se font lorsque l'ombre de la société est très fortement portée sur l'école et fait que l'école ne ferait qu'intérioriser, hein, ne ferait qu'enregistrer des inégalités sociales auxquelles elle est parfaitement à la construction desquelles elle serait parfaitement étrangère. Alors évidemment, jamais aucun sociologue n'a dit ça, mais dans la Vulgate, hein, ces positions sont souvent passées. Les travaux de Bourdieu n'ont pas échappé à ce type d'interprétation. Il est vrai sans doute que pour les acteurs scolaires, d'une certaine manière, il est, si vous me passez cette analyse, relativement facile d'externaliser les difficultés en disant finalement, nous, pauvres enseignants, n'y pouvons strictement rien, dans la mesure où nous sommes dans des sociétés tellement inégalitaires que, mis à part l'attente du grand soir et du lendemain, nous ne voyons pas ce que nous pourrions y faire. Bon, on peut, évidemment, cette position est caricaturale, personne ne la tient de cette manière-là. Néanmoins, ces formes d'externalisation, cette fois pas du travail mais de la causalité, sont extrêmement fréquentes. Je ne vous referai pas l'histoire classique de la patate chaude qui montre que les enseignants du supérieur ont d'excellentes raisons de penser qu'ils ont des étudiants tellement nuls que ça ne peut venir que parce qu'ils ont été mal formés dans le second degré, etc., etc. Et il y a un discours assez convenu, hein, un peu à la fois de lamentation et de déculpabilisation, qui consiste à renvoyer à l'échelon antérieur la cause pleine et entière de ce qui ne va pas, la question qui demeure, mais alors, mais où est-ce que ça a commencé, puisqu'on pourrait remonter jusqu'au jardin d'enfants et imaginer que, évidemment, c'est peut-être dans le foyer familial, voire dans l'utérus, hein, que se sont montées toutes ces inégalités contre lesquelles plus personne ne peut plus rien. Bon, il y a là un point de vue qui est évidemment assez insoutenable pour des gens qui ont envie de faire un enseignement qui soit un enseignement démocratique et démocratisant, et qui conduit à regarder sans rire et sans pleurer, hein, comme aurait dit Bourdieu reprenant Spinoza, la façon dont ces choses-là s'enclenchent à l'extérieur de l'école, comme je vais y venir, mais aussi à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui est relationnel ? Ben, je crois que cette façon relationnelle de voir, elle essaie notamment de se distinguer de ce qui a été à un moment donné en vigueur, hein, l'idée de handicap socio-cognitif des élèves, hein, l'idée de handicap culturel, qui regarde les élèves défavorisés, de milieux difficiles, etc., comme présentant un manque par rapport à des normes, des valeurs, des contenus d'apprentissage qui, eux, seraient justement naturalisés, indiscutables, hein, et les mêmes pour tous. Alors, évidemment, nous sommes d'une culture héritée des Lumières, dans laquelle la question de l'universel a pesé d'un poids tout à fait important, et qui a, dire, si on regarde quelqu'un comme Condorcet, qui a été un des grands, un des derniers héritiers de cette philosophie, qui l'a condensé, et qui d'ailleurs a commencé à la faire passer dans le système éducatif, il y a cette idée, hein, généreuse mais peut-être naïve, selon laquelle si les hommes étaient rationnels, s'ils accédaient à ce type de rationalité, alors il n'y aurait plus de chaînes, plus d'entraves, plus d'aliénation, pour prendre un discours un peu postérieur, parce que les savoirs sont universels, il suffit d'y introduire les élèves et tout va aller pour le mieux. Ces savoirs sont-ils si universels ? Existent-ils dans un tel vide, dans une telle apesanteur sociale ? Évidemment, rien n'est moins sûr. Et je crois qu'il faut regarder comment l'école, qui est elle-même un élément du social, participe hein, certainement à sa manière d'une façon de d'accentuer ou au contraire de diminuer les inégalités d'apprentissage entre les élèves et l'école et entre certains types d'élèves et l'école et certains types d'élèves et certains types d'école. Donc approche relationnelle, ça veut dire qu'on va regarder que ce qui se passe à l'école, en fait, c'est le résultat d'une relation. Relation entre quoi et quoi ? Entre ce que, là je cite hein, l'introduction de Rochex, des caractéristiques et des dispositions socio-cognitives et socio-langagières des élèves, donc des caractéristiques, des dispositions des élèves, et puis des réquisites de l'école. Donc c'est à l'entrecroisement, au carrefour de relations de ces deux aspects, que se déclencheraient des phénomènes que nous ne maîtrisons pas toujours, loin de là, et dont on peut imaginer qu'ils sont différenciateurs. Et dont on peut imaginer, pour aller plus loin, que ces différences, c'est surtout l'accumulation, la récurrence de ces différences, finit par déposer des inégalités, dont nous savons par ailleurs qu'une des caractéristiques du système éducatif français, c'est qu'elles sont rarement réversibles, hein, qu'elles s'attachent aux personnes. Nous savons, par les enquêtes PISA, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, que ces critères-là, l'attachement, la non-réversibilité, caractérise éminemment le système français par rapport à d'autres systèmes éducatifs, y compris dans des pays dont la structure sociale n'est pas forcément moins inégalitaire. Alors, dispositions socio-cognitives et socio-langagières, hein, notre réseau et l'équipe ESCOLE, qui est un peu tête de pont de ce réseau historiquement, s'inspire beaucoup des travaux du sociolinguiste Basil Bernstein, ou Bernstein, si vous voulez voir la version anglaise, qui, notamment dans ses premiers travaux, en tout cas traduits en français, hein, publiés en 1975, sur langage et classe sociale, nous montre que dans les familles à caractéristiques ouvrières, la simple manière de s'adresser aux enfants est très différente de la manière de s'adresser aux enfants des catégories moyennes ou supérieures, avec des traits qui sont devenus aujourd'hui caractéristiques des couches moyennes, hein, des classes moyennes, qui consistent à être moins dans l'injonctif, moins dans le directif, à faire en sorte que certes les enfants fassent ce qu'on a envie qu'ils fassent, mais d'une manière indirecte. Et Bernstein développe les notions de code restreint et de code élaboré, avec l'idée, par exemple, que lorsqu'on s'adresse en termes de code restreint, je commence une phrase, et contrairement au discours alambiqué que je suis en train de vous tenir, on peut anticiper dès le début de la phrase la manière dont ça va finir. Voilà. Il y aurait des milieux sociaux dans lesquels ce type de phrase serait beaucoup plus fréquente que dans d'autres, hein. Moins d'équivocité, on est dans des registres plus injonctifs. Dans d'autres milieux sociaux, les langages sont plus élaborés. Il y a une imprévisibilité relative de la fin de la phrase par rapport au début. La culture scolaire dominante aujourd'hui, dans le second degré massifié, c'est bien évidemment la deuxième. Nous sommes entrés dans une ère assez généralisée de ce que Bernstein appelle par ailleurs les pédagogies invisibles, j'y reviendrai peut-être, dans laquelle on veut obtenir des choses des élèves, mais pas directement. Il peut y avoir y compris d'évolution du problème dans les manières didactiques aujourd'hui d'essayer de regarder la façon d'apprendre et de connaître, où on ne vous donne pas la réponse tout de suite, on ne vous demande pas de réciter des listes de préfectures et de sous-préfectures, d'affluents, de kilos ou de tonnes de production, on vous demande de prendre en charge des problèmes, de mettre en œuvre des procédures qui tiennent aux personnes et qui sont dans un registre de complexité tout à fait important, qui, j'allais dire évidemment, tombe plus ou moins en phase avec les apprentissages premiers, avec la manière de découper le réel et de l'analyser, de le verbaliser. Lorsque Patrick Picard disait tout à l'heure que quand on essaie de penser des questions, il faut se demander qu'est-ce qu'on a comme langage à disposition, mais je crois que ce sage précepte vaut, y compris pour l'enseignement, le niveau de langue, la nature de la langue des élèves n'est évidemment pas étrangère, selon nous, à la façon dont ils conceptualisent le monde, comme je crois les linguistes nous l'ont appris depuis pas mal de temps maintenant. Nous pensons un monde qui a d'abord été découpé par la langue, et la manière de découper la langue n'est pas la même selon les milieux sociaux. Donc là, voilà un premier type de tension importante qui n'épuise pas le champ, parce que là, on dit rien, notamment Nous sommes surtout dans l'acquisition du français, hein, dans notre groupe. Nous sommes un peu moins bons, même s'il y a, vous le verrez dans le bouquin des didacticiens des maths, mais il y a moins d'ancienneté, d'antériorité des travaux sur la langue. Sur les travaux de nature scientifique, je pourrais beaucoup moins facilement donner des équivalents. Caractère implicite des réquisites scolaires. Alors, on peut en citer plusieurs. Hein. Il y a ce que je viens de dire sur le fait que les codes élaborés s'imposent aux codes restreints. Bernstein, dans d'autres textes, nous dit que nous sommes maintenant entrés dans des sociétés ouvertes, hein, et que ces sociétés ouvertes reposent sur des curriculums qui eux-mêmes sont différents. Ne serait-ce que par le fait que les individus sont sommés de plus en plus de s'engager dans la production des résultats des apprentissages. J'ai déjà développé ça dans certains travaux sur la question de la socialisation scolaire des adolescents. Je pense qu'une de ce que j'appelle la réticence des adolescents dans le second degré à s'engager dans des travaux dans lesquels on les incite vivement à prendre la parole, à être eux-mêmes, vient de cet aspect-là. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une école dont l'issue est assez incertaine pour vous, puisque vous n'êtes pas sûr du tout d'arriver à l'objectif que vous vous fixez et que vos familles se fixent avec vous. Et parfois, François Dubé, dont il était question tout à l'heure, dit qu'en France, à part le premier reçu à Polytechnique, tout le monde est en échec. Bon, il exagère un peu, mais cette manière de programmer les scolarités à partir d'un éventail assez peu ouvert, hein, de filières et de qualifications, engendre des craintes absolument épouvantables chez les adolescents en particulier, qui vont se solder par des dégagements d'eux-mêmes. Hein. Et si vous voulez ne pas savoir faire un devoir parce que vous n'avez pas appris, et ne pas savoir faire un devoir parce que bien que vous ayez essayé d'apprendre et travailler parfois intensément, vous n'y êtes pas arrivé, c'est beaucoup plus dérangeant dans le second cas que dans le premier, parce que nous sommes passés dans des constructions curriculaires différentes, hein, c'était pour boucler avec le propos de Bernstein, dans lesquelles l'identité personnelle est beaucoup plus mise en jeu, beaucoup plus interrogée par les résultats. Je ne peux difficilement, dans l'école actuelle, si je suis élève, dégager ma personne des évaluations qui sont fournies, et je crois que cet aspect-là est une clé importante de cette espèce d'apathie, d'anomie intellectuelle que les enseignants regrettent, hein, de manière très importante, ne comprenant pas pourquoi aujourd'hui le savoir est ouvert, même se sont battus pour ça il y a quelques décennies, et qu'ils laissaient de former la pensée critique. Finalement, les élèves semblent à des années-lumière de ces préoccupations et se retranchent dans des modes de standardisation, de restandardisation du travail, auxquels je reviendrai, qui sont, je crois, plus des armes de défense que des armes d'une absence d'intérêt complet pour les études dans lesquelles ils sont engagés. Donc, vous voyez, dans ce relationnel, on rentre déjà dans des choses assez compliquées qui font que ce qu'évalue le système scolaire, c'est pas simplement des caractéristiques qui tomberaient en pas ou qui tomberaient en phase ou pas avec ces attentes. Elles évaluent aussi des constructions très puissantes, hein, qui sont celles des acteurs et qui contribuent à la construction de cette relation. Il y a d'autres aspects qu'on pourrait évoquer. Il y a la question de l'invisibilité des pédagogies, dont j'ai parlé tout à l'heure. Pas du tout évident que des enfants formés à des pédagogies de la visibilité et de l'action directe, je dirais, sur eux-mêmes, se retrouvent facilement dans les pédagogies de l'invisible. Hein. Bon, on pourrait développer cet aspect-là. Un autre aspect qui est souvent mis en évidence, je pense aussi aux travaux de Pierre Perrier, hein, sur la construction d'un ordre négocié à l'école. Pierre Perrier insiste notamment sur la dimension temporelle. Il y a dans les attentes scolaires une certaine conception de la temporalité qui n'est pas la conception de la temporalité de toutes les catégories sociales. Aujourd'hui, s'engager dans l'école, c'est imaginer qu'on en prend pour une grosse vingtaine d'années. Parfois, il y a des remises de peine, mais en général, on y est pour assez longtemps, avec peu de possibilités de faire autre chose. Une des conséquences paradoxales du succès de l'école, c'est que la possibilité de se mettre en valeur ailleurs que dans l'école, si vous n'y arrivez pas à le faire dans l'école, est extrêmement limitée pour les grands adolescents. Donc il faut se programmer pour une durée très longue, dans laquelle chacune des étapes ne doit être considérée précisément que comme une étape, et dans laquelle chacun de vos échecs peut être mis en perspective avec l'idée que ça n'est pas très grave de faire des erreurs, pour autant qu'on est capable d'y remédier, de prioriser ce à quoi il faut remédier, et donc de se programmer comme un marathonien pour en garder. Hein, alors j'allais dire sous la pédale, ça c'est plutôt la variante triathlète, mais ces temporalités-là sont très éloignées des temporalités des milieux populaires. Vous connaissez comme moi ces élèves qui, aussitôt la copie, l'exercice corrigé reçu, et si c'est pas gratifiant pour eux, la froisse, la mettent dans le cartable, dans la poubelle, et disent qu'ils vont recommencer et retenter leur chance de manière absolue la fois d'après, et que tout ce que vous avez écrit pendant le week-end laborieux, où vous vous placez vous dans une perspective de continuité, est interprété pour eux par une espèce de une sorte de système de roulette russe, hein, où tout est remis en question à chaque fois. Cette idée qu'on apprend de ses erreurs est admissible dans certains types de configurations familiales et intellectuelles, je crois, et pas du tout dans certains mondes. Je reviendrai sur les devoirs, je viendrai plus longuement sur les devoirs, mais le seul fait d'avoir des devoirs à faire le soir n'est pas du tout évident lorsque vous avez un certain type de rapport au travail et au métier. Je renvoie là un travail ancien de Lucie Tanguy qui s'était tout simplement amusée à, si on peut appeler ça comme ça, à regarder les emplois du temps des élèves de l'enseignement professionnel, de l'enseignement technologique, de l'enseignement général, et qui voyait que, d'une manière assez transparente, ces emplois du temps étaient le décalque à peu près parfait des journées de travail des parents selon qui travaillait à l'atelier, à l'usine, dans le bureau, à l'université, dans l'encadrement, au sens où, quand vous êtes dans l'enseignement professionnel, vous avez beaucoup d'heures de présence sur place. Et en principe, vous n'amenez pas grand-chose à la maison, de la même manière que si vos parents sont ouvriers, on ne voit pas pourquoi ils amèneraient du boulot à la maison. Si vous êtes cadre supérieur, il est tout à fait normal que vous partiez avec votre ordinateur, que vous passiez votre week-end à regarder les dernières statistiques, etc., pour faire l'exposé du lundi matin. Si vous êtes prof, ça ressemble aussi à ça. Et bien évidemment, il y a là une acculturation profonde d'enfants qui, voyant comment le temps signifie dans les différents milieux, entre plus ou moins aisément dans l'idée qu'une fois la journée terminée, elle n'est pas terminée, et qu'on continue à travailler. Voilà, beaucoup de parents de milieu populaire s'indignent quand on les interviewe du fait qu'il faille continuer à travailler le soir, surtout si ça engendre des psychodrames à la maison, ce qui est souvent le cas pour ce genre d'exercice dont nous sommes particulièrement friands. Donc dans le groupe, hein, c'est ça un peu donc que je voulais situer au début, cette approche relationnelle, elle va mettre en jeu des disciplines différentes, mais j'y viendrai un peu plus loin en disant deux mots de l'approche contextuelle. Parce qu'évidemment, ces relations qui se produisent dans une classe, dans un établissement, entre des professeurs et des élèves, elles sont aussi dans des contextes. Et il nous semble intéressant d'équilibrer les deux pour ne tomber ni dans l'externalisation dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est la faute à l'impérialisme, c'est la faute au néolibéralisme, c'est la faute à tout ce qu'on peut imaginer, ce qui est sans doute en partie le cas, mais qui ne permet pas d'expliquer la réalité fine. Hein, pourquoi dans ce monde-là, les filles réussissent-elles mieux que les garçons aujourd'hui et ont-elles connu des gains d'acquisition de scolarité dans un système qui continue de rester inégal? Il y a quand même des problèmes que ça pose. Pourquoi y a-t-il des méshéritiers, hein, des gens qui devraient être des héritiers mais qui ne le sont pas? Pourquoi y a-t-il des miraculés? Voilà, sur ces petits bouger, ces manières de se situer dans le système éducatif, ces macro-causalités ne suffit pas à rendre raison. À l'inverse, ce qu'on appelle parfois nous le situationnisme, c'est-à-dire le fait de regarder des situations tellement micro, hein, en dépliant toutes sortes de dimensions tout à fait intéressantes, ne permet pas non plus, risque de les isoler, hein, de les couper du tissu social dans lequel elles ne peuvent cesser de s'inscrire, et de dériver pour nous dans des explications de caractère psychologisant, hein, qui ont sans doute leur intérêt, mais pas à titre explicatif de ce qu'est la construction des inégalités scolaires. Alors, que sont les contextes? Ben, ce sont d'abord, dit Rocher dans son introduction, des contraintes de situation. Bon, la notion de contrainte de situation, je crois, est empruntée à la sociologie interactionniste. Hein, c'est l'idée que même si les interactions sont nouvelles, hein, nouveau professeur, nouvelle classe, néanmoins il y a des contraintes de situation, les élèves sont des élèves et les enseignants sont des enseignants. À partir de là, il peut y avoir des variations, mais il y a bien un cadre, hein, qui est créé, et si vous commencez vous-même à vous comporter comme un élève et les élèves comme des enseignants, à un moment donné, le cadre ne va plus tenir et on sera dans une situation qui n'est pas situation scolaire. Donc il y a des contraintes de situation, il y a des contextes socio-géographiques. Nous savons aujourd'hui que l'école de la périphérie et l'école du centre, c'est pas exactement la même chose. Depuis 1998, la notion de discrimination, en effet, a acquis droit de cité aux scientifiques et même sociales. Mais le fait de pouvoir regarder l'école comme un tout indifférencié qui a... cette manière de voir qui a existé assez longtemps dans le système éducatif, aujourd'hui, ne tient plus. Je crois que c'est 1981, Dominique Paty, le premier ouvrage... elle fait un bouquin qui s'appelle « 12 collèges en France » ou 10, je ne sais plus, enfin un certain nombre de collèges en France, voilà... c'est la première fois qu'on regarde des collèges comme étant différents. C'est une date. À la fois, c'est lié aux lois de délocalisation qui font qu'on va regarder de plus près sur le terrain comment c'est. Mais c'est la première fois qu'on commence à regarder les entités scolaires, les unités scolaires, comme des manières différentes d'interpréter le milieu local, selon qu'on est en centre-ville, dans un territoire périphérique, au contraire à la campagne. Elle construit des modèles sur un paradigme de sociologie des organisations. C'est la première fois qu'on utilise ça pour l'école à l'époque, puisqu'on est à peu près convaincu, à la fois politiquement et scientifiquement, que la rue de Grenelle fabrique des plans d'établissement, des programmes, des enseignants, des élèves, et qu'il y a là-dessus une homogénéité sur le territoire de la République. Donc nous sommes, je crois, revenus de cette illusion, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans d'autres, mais il y a en effet des contextes socio-géographiques, et parler de l'école en général, évidemment ça a un sens, mais ça n'a pas un sens qui explique tout. Il y a aujourd'hui plusieurs types d'élèves, plusieurs métiers d'enseignants. Les gens qui connaissent des mutations savent bien que c'est pas la même chose d'être prof dans le 93 et un peu plus au sud de la France lorsqu'ils ont assez de points pour y revenir. C'est pas simplement une question d'ensoleillement, c'est aussi une question de métier qui peut être différent. On sait aujourd'hui qu'il y a des curricula d'établissement, qu'on n'apprend pas la même chose avec les mêmes élèves, etc. Je n'insiste pas parce que tout ceci est devenu banal, mais je crois doit être pris en compte dans cette approche contextuelle. Il y a un deuxième aspect qui se fond un peu avec le premier, mais qui n'est pas tout à fait le même, c'est que les contextes, ce sont aussi des politiques éducatives, et ces politiques éducatives ont des effets différenciés. Si vous vouliez lire d'autres travaux de Jean Hirochex, il a récemment émis l'hypothèse qu'il y avait par exemple trois âges des politiques d'éducation prioritaire. Voilà, il y a trois périodes qui visent des résultats différents. La restructuration, notre collègue parlait du réseau Ambition Réussite, la restructuration du réseau Ambition Réussite, c'est un pari, une direction qui est prise dans l'éducation prioritaire, ça aurait pu être autrement. Les internats d'excellence, les internats de réinsertion scolaire sont aujourd'hui des politiques éducatives qui ne sont pas sans effet sur le territoire, sur les écoles, sur la scolarité, qui font l'objet de choix. Est-ce qu'on intervient plutôt en amont? Est-ce qu'on intervient plutôt en aval? Est-ce qu'on dissémine les moyens? Est-ce qu'au contraire, on les concentre sur certains endroits? Voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre du choix et qui, je crois, ne manquent pas d'avoir des effets à long terme, mais aussi très certainement à moyen terme sur le paysage dans lequel ces relations vont s'effectuer. Parce que, certes, ces contextes, ils sont synchroniques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut trouver comment ces différents types de dimensions sont enchâssées, emboîtées et créent le terreau des interactions relationnelles, mais elles sont aussi diachroniques, c'est-à-dire que ce paysage bouge. Et on peut imaginer que l'éducation prioritaire, depuis les années 80, où elle a été reconnue et créée en tant que telle, ont connu des modifications dont on peut estimer qu'elles ne vont pas forcément dans le sens d'une diminution des inégalités d'apprentissage. Alors, évidemment, conceptuellement, on pourrait interroger tout ça et le développer davantage, mais vous aurez peut-être l'occasion de le faire dans les questions que vous poserez à la suite et que vous poserez à Jean Hirochex demain. L'entrée par les malentendus, je vais essayer d'aller relativement vite au risque d'être encore plus confus que je ne l'ai été auparavant. L'idée des malentendus, vous l'avez peut-être déjà lu ou entendu exposer, c'est pourquoi je n'ai pas trop m'y attendre. Pour se mésentendre, il faut être au moins deux, avec l'idée que je crois que l'autre travaille dans la même logique que moi, et lui aussi, et en réalité nous ne sommes pas dans la même logique. Voilà, ce qui fonde pour nous les malentendus sont des croisements de logique. Ce qui a, selon moi, deux mérites. Le premier, c'est de montrer qu'il n'y a pas une univocité des situations scolaires. On est dans du complexe, dans des conflits possibles d'interprétation de qu'est-ce qu'on est là pour faire, Comment le fait-on? Quelle est la nature des tâches? Qui les réalise comme il faut, etc. Le deuxième intérêt, de mon point de vue, c'est que cette manière d'analyser en termes de malentendus devrait éviter les postures dénonciatoires. C'est pas la même chose de dire que des gens sont malentendus que de dire que certains sont des paresseux, sont des utilisateurs du système, des instrumentateurs, même si on a envie de le penser à certains moments et que ça fait du bien. Mais on peut imaginer que les élèves en échec ne sont pas forcément en échec pour leur plaisir, et que si vous causez des difficultés, ce n'est pas forcément par plaisir non plus. On peut imaginer qu'ils sont dans des logiques qui vous échappent, qui ne sont pas exactement celles que vous attendriez, mais que, d'un point de vue extérieur, on pourrait dépassionner. Quand on est en interaction, c'est différent, mais que d'un point de vue extérieur, on doit pouvoir décortiquer ça en termes de malentendus. Lorsqu'on forme les jeunes enseignants qui se font un peu insulter et malmener, évidemment, on essaie de leur dire qu'il ne faut pas qu'ils prennent ça pour eux, mais qu'il faut qu'ils prennent ça pour une manière qu'ont les élèves de s'adresser à l'institution, même si momentanément l'institution c'est eux. C'est très difficile de réagir comme ça en situation. Néanmoins, ça fait sans doute partie de la professionnalité, hein, qui consiste à se saisir comme membre d'un collectif professionnel dont il n'est pas évident que la légitimité soit immédiate pour ceux... à qui on s'adresse et qui, de toute façon, ne peuvent jamais s'adresser à l'institution, ne peuvent s'adresser qu'à vous. Voilà. Donc là, je crois qu'on est dans une manière qui se veut, sinon apaisée, du moins rationalisée, de regarder ces malentendus. Dans ces travaux et ceux de Passeron, Bourdieu, dans les années 60, attirait l'attention sur ce qu'il appelait les sous-entendus. Il parle parfois de malentendus, mais je crois qu'il parle surtout de sous-entendus, parce qu'on est à une époque, alors il faut voir que Bourdieu, à l'époque, regarde l'enseignement supérieur, hein, et les classes préparatoires, je crois surtout, qu'il travaille sur son souvenir et sa pratique et son milieu, et il nous dit, voilà, il y a des enseignants... dans l'enseignement supérieur, qui se comportent vraiment pas bien du tout, parce qu'ils donnent pas aux étudiants les consignes. Hein, les étudiants disent, mais qu'attendez-vous de nous? Et les enseignants veulent pas le dire. Il faudrait, disent Bourdieu et Passeron, qu'ils vendent la mèche. Hein. Et ils prônent à l'époque des pédagogies de l'explicitation, à travers lesquelles il suffirait, d'une certaine manière, de dire aux élèves ce qu'on attend pour qu'ils comprennent les codes et qu'ils réussissent. Je crois que cet optimisme-là est aujourd'hui a été un peu douché parce que il me semble que beaucoup d'enseignants, et depuis notamment que le système s'est massifié, passent une partie importante de leur vie à donner les consignes, à les expliciter, à les répéter. On a vu apparaître ces outils tout à fait nouveaux que sont les fiches, qui sont aujourd'hui massivement utilisées, qui sont bardées, hérissées de consignes, dont on se rend bien compte que ça ne suffit pas de les donner pour que les élèves les intériorisent, les comprennent et fassent ce qu'il y a à faire, que même dans certains cas, on rentre là dans les notions de sous-ajustement ou surajustement qu'ont travaillé notamment Elisabeth Bautier et Roland Guagou, selon lesquels on voit que les enseignants sont tantôt dans du... Alors, sous-ajustement, c'est-à-dire qu'ils disent, ben allez, vous allez faire une dissertation, ou bien dans le surajustement, dans lequel vous êtes tellement guidé. Alors, dans le premier cas, on n'est pas du tout guidé et on se perd. Dans le deuxième cas, on est au contraire trop guidé. C'est le cas des exercices à trous, dont sont aujourd'hui coutumiers beaucoup d'élèves, qui peuvent très bien réussir chaque item en mettant la chose à peu près convenable dans le trou, mais n'ont plus aucune idée de la totalité de l'exercice et ne comprennent pas, alors même qu'ils ont validé chaque pas, qu'ils n'ont pas validé l'exigence globale et la compétence globale qui était sous-tendue, sous-entendue, et qui était de comprendre la chose qu'il y avait à comprendre. Voilà. Cette valse-hésitation entre sous-ajustement et surajustement nous paraît, nous, assez significative des malentendus contemporains et du fait que la question des consignes est certes importante, mais ne suffit pas à régler sans doute des questions plus profondes. Alors les didacticiens nous aident un peu parce qu'ils nous disent « oui, ben, évidemment, il faut expliciter, sauf qu'on ne peut pas tout expliciter. Hein. » Il y a une clause... que nous apprend la didactique des mathématiques à l'origine, par le biais de Brousseau, qui est la cause proprio motu, c'est-à-dire l'élève doit trouver par lui-même. Si vous explicitez tout, l'élève ne trouve plus parce qu'il n'y a plus rien à chercher. Donc l'enseignement se trouve dans une contradiction, qui est la contradiction fondamentale de l'enseignement, c'est comment faire que les élèves trouvent des choses qu'ils doivent trouver, mais sans qu'on leur dise ce qu'il faut trouver, tout en leur donnant suffisamment d'éléments pour qu'ils arrivent à trouver. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris votre métier, mais pas forcément les raisons d'y arriver, les moyens d'y arriver. Il y a deux effets classiques que dégage Brousseau, c'est l'effet topaz. je vois que l'élève fait une faute d'orthographe et donc je me penche sur son épaule et je dis les moutons étaient dans le pré, voilà. Donc là, la consigne est très explicite, sauf que l'élève n'a plus rien à faire. Donc il y a un échec de la pédagogie puisque vous faites à sa place. Et l'effet Jourdain, qui est un peu moins connu, hein, c'est que si l'élève vous dit que, eh ben, il a toujours fait de la prose sans le savoir, vous lui donnez le gain de la partie sans que la partie ait été jouée, hein, pour en prendre l'expression de Gérard Sansevie, parce que c'est pas vrai. Vous n'avez pas toujours fait de la prose sans le savoir, parce que pour faire de la prose, encore faut-il savoir qu'on fait de la prose. Hein, et si le maître de rhétorique donne le gain de la partie à Monsieur Jourdain, parce qu'il a un peu marre de répéter à quelqu'un qui veut apprendre trop vite et qui pense que l'argent achète le savoir. Donc on est dans une position qui n'est plus une position d'apprentissage, où l'explicitation est trop grande, hein, et que, là encore, la passation, la clarification de la consigne risque de tuer l'intérêt intellectuel. Il y a un troisième argument qu'on peut faire valoir contre l'idée que nous ne serions que dans des sous-entendus, qui est un argument que moi j'essayais de développer, c'est que ça n'est pas simplement que les élèves n'ont pas les bonnes consignes ou n'ont pas les bonnes connaissances. C'est aussi que les élèves ont des consignes ou des connaissances qui sont contre-productives par rapport à ce qu'il y a à faire. Ils ne sont pas dans un déficit de savoir, ils sont dans des types de savoir qui sont autres. Et là, je crois que nous sommes bien dans l'hypothèse relationnelle. Parce que si les élèves étaient simplement des tables rases, sur lesquels il suffirait de construire des savoirs impeccables, les choses seraient relativement faciles. Le problème, c'est qu'ils sont, comme tout un chacun, pleins de catégorisations du monde et des choses qui ne sont pas nécessairement les catégorisations propres à la forme scolaire. Et que donc le travail de déconstruction de ces, ce qu'on appelle parfois les représentations, mais qu'on peut aussi appeler des perspectives au sens sociologique du terme, parce que ça va plus loin, ce travail de déconstruction semble une sorte de préalable. Non pas pour que les élèves renoncent à leurs identifications premières, mais pour qu'ils comprennent qu'à l'école, on travaille d'une manière spécifique, qui est la manière spécifiquement scolaire de travailler, et qui n'est absolument pas naturelle. Construit social, important. Il faut notamment accepter qu'à l'école, les gens qui posent des questions sont en général les gens qui connaissent les réponses et qui les posent à des gens qui ne sont pas supposés les connaître. Il y a une artificialité totale à laquelle les élèves doivent s'habituer, dont ils peuvent devenir des spécialistes, ça peut même être rigolo au bout d'un moment, à condition d'entrer dans ce type de jeu qui peut paraître totalement pervers si, dans les situations naturelles, je dirais, avec des guillemets, vous demandez votre chemin dans la rue à quelqu'un et que la personne n'est pas censée savoir la réponse à la question que vous lui posez. Voilà. Et bien, à l'école, c'est justement pas comme ça. Donc il y a du métier d'élève avec une manière d'appréhender les savoirs et les rapports au savoir qui participent, selon nous, au tissage des malentendus. Alors je vais vous soumettre, mais de manière extrêmement rapide et violente, quelque chose qui veut s'appeler une... Voilà, qui essaie de regarder comment les situations scolaires sont, pour employer le mot de Giddens, des conteneurs, hein, des conteneurs de malentendus socio-cognitifs. Alors conteneurs, pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que ça va se déclencher immédiatement. Ça veut dire que les acteurs du drame sont là, si vous voulez, et que peut-être la mayonnaise va prendre et fabriquer du malentendu. Socio-cognitif, pourquoi? Parce qu'il nous semble que les deux logiques principales qui s'affrontent à l'école, en tout cas qui rentrent en tension, sont des logiques sociales. On est à l'école, comme disent les élèves quand Charlot, Bottier-Rochex leur ont fait passer les bilans de savoir en 1992. Beaucoup d'élèves de milieu populaire disent on est à l'école pour apprendre et pour avoir un bon... Non, on est à l'école pour avoir un bon métier, pardon. Voilà. Autrement dit, dans leur représentation, l'école est un moyen privilégié, d'ailleurs ils ne se trompent pas dans l'intention, pour s'arracher à ces conditions sociales. Les parents leur disent tout le temps, si tu réussis à l'école, tu auras un métier bien meilleur que le nôtre et tu n'auras pas la vie de chien que nous menons. Voilà. Donc ils sont pétris par ce type de discours. Donc, l'école, elle est essentiellement pour eux un contenu social. Ce qu'elle est, bien évidemment, sauf qu'elle est en même temps un contenu cognitif, avec, au risque de rabâcher ce que j'ai dit, une temporalité, une manière de conceptualiser, une manière de regarder les rapports entre les questions, les réponses, etc., etc., une façon de fonctionner selon des règles, hein, comme nous l'a appris Guy Vincent, qui fait que l'enseignant, comme les élèves, sont eux-mêmes soumis à ce type de règles. C'est pas la même chose d'apprendre la pâte à crêpes avec sa maman dans la cuisine, je ne dis rien, de l'UFM, ou à l'école. Il y a des façons tout à fait différentes, autre que par oui-dire ou voir-faire, hein, comme le dit Vincent, qui participe de l'univers scolaire en tant que tel. Vous voyez, il y a des exigences cognitives particulières, on peut le regretter, le déplorer, c'est comme ça. Or, c'est logique, ce télescope, parfois, avec le fait que on va ou sous-estimer les logiques cognitives et du coup surestimer les logiques sociales, ou à l'inverse, surestimer les logiques cognitives ou sous-estimer les logiques sociales. Je vais en prendre quelques exemples. Par exemple, le travail à la maison, je laisse de côté, donc, puisque je vais y revenir. Mais le sens de l'école et de ses attentes, c'est à peu près ce que je viens de dire. Hein. De manière paradoxale, les élèves qui risquent de se débrouiller le moins bien à l'école sont aussi les élèves qui en attendent le plus. Dans tous les travaux que j'ai faits sur les jeunes, hein, de l'école primaire à l'université, lorsque j'ai regardé les variables sociologiques classiques d'origine sociale des élèves, on voyait que ceux qui attendaient le plus de l'école et ceux qui croyaient le plus en l'école étaient les élèves des catégories les plus populaires. On peut d'ailleurs comprendre à cette attente que, comme leurs espoirs sont assez rapidement douchés, c'est aussi ceux qui vont se retourner contre l'école, sur le mode de l'amour déçu, hein, et que là où on voit parfois, là où on croit lire des types de comportements de refus ou d'hostilité, il y a au contraire, de mon point de vue, des demandes au contraire de réussite, hein, des demandes d'aide, des demandes d'assistance, des attentes très fortes vis-à-vis de l'école et de ceux qui la représentent. On voit au contraire que des élèves de catégorie socialement jugés comme supérieurs ont une approche de l'école qui est plus instrumentaliste, qui certes ne nie pas l'école, mais la voit comme un des moyens possibles au sein d'une batterie plus ample de se réaliser dans la vie, étant entendu qu'il y a d'autres appuis extrascolaires, souvent d'ailleurs en convergence, en complément avec l'école, hein, mais qui font que la personne du maître ou de la maîtresse, par exemple, est moins investie, hein, qu'elle ne peut l'être chez les enfants de milieu populaire. Donc là, il y a un véritable paradoxe, c'est que plus on croit à l'école, plus on risque de ne pas comprendre les codes de l'école, hein, parce qu'on pense qu'il y a une espèce d'opération un peu magique qui fait que l'enthousiasme, l'adhésion, hein, va vous sauver et vous faire réussir. De l'autre côté, et je ne prendrai que ce point-là, il y a ce que j'appelle la métaphysique de l'exposition au savoir, c'est cette croyance qui a imprégné le mouvement social, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, mais y compris le monde de la recherche, je crois, qui était qu'il suffisait de mettre les enfants de milieu populaire dans les lieux autrefois fréquentés par l'élite pour qu'ils y apprennent la même chose que l'élite. Et d'ailleurs, on ne voulait pas en rabattre sur les contenus, et sans doute à juste titre, mais avec certaines désillusions aujourd'hui, où on ne sait plus quel type de savoir enseigner, puisqu'on a fait l'expérience que mettre des élèves d'origine modeste en présence et seulement en présence des contenus, ne suffisait pas à enclencher chez eux des types de structuration intellectuelle, de rapport au savoir, qui sont les rapports attendus. Voilà, donc je passe là-dessus. On pourrait dire la même chose de ce qui devient, dans certains cas, ce qu'on appelle les objectifs de pacification. On voit bien, je parlais tout à l'heure des curriculums d'établissement, des curriculums de ZEP. Hein. Pas mal de travaux depuis les années 80 nous montrent que en ZEP, on est conduit, hein, à pacifier les situations et donc à décliner les contenus curriculaires. Et nous savons bien que dans le système éducatif aujourd'hui, il y a des endroits dans lesquels, à partir du même programme, soit on le minimise, hein, il y a y compris des accords d'établissement qui finissent par se faire au motif qu'avec ces élèves-là, ben, ce point-là, on ne pourra pas le traiter, donc ce n'est pas la peine, hein, on tombe d'accord pour construire cette perspective-là. D'autres établissements dans lesquels, au contraire, on commence à anticiper les classes préparatoires, hein, en rajoutant par rapport au curriculum prescrit à un moment donné. Voilà. De l'autre côté, il y a ce que j'appelle reprenant ça des concepts de Bernstein, mais qui sont trop longs à exposer aujourd'hui, le fait qu'on va découper l'horizontal et le vertical, c'est-à-dire qu'on va Le vertical, hein, ce qu'il appelle le discours instructeur parfois, c'est le fait que dans l'école, il y a des savoirs qui sont reliés de façon verticale au savoir de la science, au savoir universitaire, et qu'on essaie de faire descendre à la suite d'un certain nombre de déclinaisons chez les élèves. Mais il y a aussi des relations horizontales qui fait qu'on appartient aussi à une communauté scolaire. Hein, et donc, on peut jouer sur ces deux axes-là. Et selon les cas, on va augmenter la portion du vertical ou au contraire augmenter la portion de l'horizontal selon la faisabilité hein, de la tâche éducative. Voilà, je passe là parce que je veux en venir à la question des devoirs pour ne pas être trop long. Vous voyez, j'ai déjà trahi un petit peu mon propos en parlant des devoirs puisque, de mon point de vue, c'est pas la même chose de parler du travail des élèves, ce qui, à mon avis, est une façon correcte de parler ou de parler de processus d'apprentissage. Comment a-t-il su que j'avais soif et de parler des devoirs à la maison qui me paraissent frappables d'une double critique. D'abord parce que la notion de devoir, elle connote un aspect moral alors qu'il ne s'agit pas de dénier, mais qui risque justement d'absorber la logique cognitive sous la logique sociale, c'est-à-dire qu'on risque de voir dans les devoirs dits ou dans les dits devoirs à la maison l'aspect d'obligation qui est celle des élèves, sans forcément s'interroger sur le fond sur la finalité cognitive et la finalité d'apprentissage de ce genre de travail. Et puis lorsqu'on parle de à la maison, on risque de ne pas voir, mais c'est très difficile aujourd'hui de ne pas le voir, que ces travaux ne se font pas simplement à la maison, ils se font dans toutes sortes d'autres endroits que la maison, qui peuvent être les études surveillées, l'association, chez les copains, sur Internet, dans des associations privées qui fleurissent, etc., etc., et qui complexifient de manière tout à fait importante la chose. Alors, si on essaie d'appliquer les concepts que j'ai essayé de développer rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire le contextuel et le relationnel, évidemment la description n'est pas exhaustive, mais le contextuel, nous sommes dans un mouvement général aujourd'hui d'autonomisation des personnes. Je renvoie notamment, pour ceux qui voudraient aller voir un peu plus, aux travaux, entre autres, de Castel, hein, sur la construction des individus contemporains, Castel nous montre que l'individu tel que nous le connaissons aujourd'hui est une très lente construction historique, hein, n'apparaît qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, sous la forme que nous lui connaissons, mais que nous avons tendance aujourd'hui à prendre, c'est là aussi les phénomènes de naturalisation dont il était question à l'ouverture, nous avons tendance à prendre les individus pour des points de départ absolus, hein, et pour des notions tout à fait évidentes, là où il s'agit d'une construction à la fois historique de longue durée et d'une construction pour chaque individu aujourd'hui qui se construit comme individu. L'autonomie dans le travail est, je crois, un des aspects particuliers de cette conception de l'individu aujourd'hui. Il suffit de regarder l'évolution des exercices au baccalauréat sur des dizaines d'années pour comprendre comment les exercices sont devenus de plus en plus intelligents, impliquants. Hein, ce qui ne veut pas dire que les élèves savent les faire, hein, c'est une autre question. Mais dans la prescription curriculaire, on s'adresse à un client idéal qui est quelqu'un capable de faire tenir sur sa personne hein, beaucoup de dimensions, d'orchestrer, de synthétiser, de transférer des savoirs, de transférer des concepts. Ce qui est proprement la marque de l'autonomie intellectuelle. L'intervention des compétences aujourd'hui dans les nomenclatures et les référentiels, je crois, là, une des retombées les plus palpables hein, de cette affaire de l'autonomisation. Voilà pourquoi aussi elles sont si difficiles à évaluer. Paradigme purocentriste, hein, dans les années 90, un énorme changement s'est produit dans la façon dont le système éducatif se présente lui-même, à savoir qu'il doit graviter autour de l'élève, hein, selon la formule de Lionel Jospin de l'époque, hein, révolution copernicienne. Évidemment, lorsque vous devez construire un projet scolaire et professionnel, passer un contrat didactique avec vos enseignants et devenir citoyen dans votre école, hein, ce qui est à peu près le triptyque de cette affaire de l'élève au centre, parfois l'enfant au centre dans les textes, nous sommes là dans une construction historique tout à fait particulière qui va promotionner l'autonomie. Les devoirs, le travail hors la classe, c'est un moment particulier dans lequel cette autonomie est censée à la fois se construire et être validée. Sans qu'on se pose trop souvent la question de savoir comment est-ce qu'on construit l'autonomie nécessaire à la réalisation de devoirs autonomes. Je crois que c'est un peu des oubliés de la période actuelle. Alors, il y a donc cette toile de fond purocentriste dans le contexte. Il y a une externalisation de caractère technique qui a été préparée, entre autres, par la réforme de 1902, qui elle-même faisait suite aux résultats tout à fait, enfin, au travail tout à fait important de la commission Ribot. Cette réforme modernise l'enseignement, commence à minimiser le poids des humanités classiques, commence à intégrer des disciplines scientifiques et techniques. Mais elle a entre autres une particularité, si j'ai bien compris ce que disent les historiens, c'est que les séquences de 2 heures, qui étaient les séquences de cours, avec l'idée que dans 2 heures, on avait 1 heure où on faisait la leçon et 1 heure où on s'exerçait, sont devenues des séquences de 1 heure. Il est devenu à peu près impossible de faire à la fois le cours et les exercices dans ces séquences de 1 heure. Ça paraît un détail de l'histoire, mais je crois que ça a eu une fortune considérable dans l'externalisation progressive du travail des élèves, puisqu'on ne peut plus le faire en classe, on le fait à l'extérieur de la classe. Mais il y a eu des périodes dans lesquelles on pouvait le faire à l'extérieur de la classe, mais néanmoins dans l'école, avec des personnels dédiés, des répétiteurs, etc., dont on peut penser qu'ils travaillaient en lien plus ou moins substantiel avec les enseignants. Et en tout cas, le travail était fait dans l'école. Mais plus les choses sont allées, plus on a externalisé, non plus simplement à l'extérieur de la classe, mais à l'extérieur de l'école, et sans le personnel dédié qui était là, en principe, pour faire ça. Les adjoints d'enseignement qui existaient dans les années 60, qui jouaient un peu ces fonctions dans les lycées et collèges, ont été même titularisés dans le corps des certifiés, et ont disparu ces personnels, remplacés tardivement, au moment où on a commencé à prendre conscience de l'ampleur du problème, par une nuée d'adjoints d'éducation, d'assistants pédagogiques, d'adultes relais, de médiateurs, de toutes sortes de personnages et d'institutions qui sont tellement stratifiés en pile aujourd'hui que plus personne n'y voit vraiment très très clair dans ces dispositifs, lesquels sont fréquentés souvent dans l'ordre, dans le désordre, par des élèves qui, dans la même semaine, sont à la fois suivent les cours de manière assez intense et le soir ont 1 heure et demie de plus dans ces officines diverses et variées, dont certaines se font payer aujourd'hui, dont certaines, alors le processus d'externalisation était à son comble avec le jeune défunt qui s'appelait faitmesdevoirs.com, dans lequel, contre monnaie sonnante et trébuchante, on faisait vos devoirs à votre place. C'était d'ailleurs assez juste, il y avait une justice, puisque selon le niveau scolaire, c'était de plus en plus cher, il fallait bien rémunérer le travail. Donc, externalisation technique qui explique aujourd'hui ceci, et troisième aspect qui me paraît important dans la toile de fond, c'est que, et là nous sortons de là où sommes en plein dans la quinzaine de la FCPE et de l'ICEM, qui demande une sorte de moratoire avec 15 jours sans devoir à la maison, ce qui prouve bien qu'elle a un problème social reconnu comme tel. C'est qu'à la question, mais pourquoi, alors que tout le monde trouve que c'est pas terrible le travail hors la classe, que ça met des courts-circuits dans les familles, que ça coûte une fortune, etc., et que les résultats en termes d'efficacité et d'équité sont loin d'être garantis, et néanmoins, elle tourne, aurait dit Galilée, et néanmoins, on en donne, dit Dominique Glassman. Non, mais quand même, voilà, ça sert à rien, mais on en donne quand même. Pourquoi ? L'idée, c'est que, pour reprendre là aussi un concept latourien, il y a un espace d'intéressement. À savoir que, entre une école républicaine qui s'est fermée sur elle-même pour toutes sortes de raisons politiques et historiques, et le reste de la société, il n'y a pas beaucoup d'objets qui circulent. Le travailleur de la classe en est un. Et il y a là très certainement une logique sociale et politique très forte qui fait qu'on les maintient alors même que personne n'est prêt à les défendre mordicus, préfère les sous-traiter s'il le peut. Et là, je crois qu'on est vraiment devant un fort conteneur de malentendus parce que du coup, la logique cognitive a tendance à passer à l'as, avec notamment des conflits didactiques qui peuvent apparaître dans la manière de faire les devoirs, ce à quoi je vais venir maintenant concernant le relationnel, ce qui sera le dernier aspect. Si on essaie de regarder du côté des enseignants, des élèves et des parents, pour faire vite, on se rend compte que les relations qui se nouent sur la question du travail hors la classe sont des relations souvent opaques, parfois pour les acteurs eux-mêmes et évidemment entre les différents acteurs. La première caractéristique dans le travail qu'on a fait sur la question, c'est qu'il y a une polysémie des prescriptions enseignantes. Pourquoi donne-t-on du travail hors la classe ? Pour de multiples raisons, qui ne sont pas du même niveau. Lorsque des sportifs s'entraînent, qu'ils ont un entraîneur, et plus ils sont professionnels, plus c'est spécialisé, On sait exactement les points que doit travailler un tel ou un tel, parce que ce sont des points forts, des points faibles, parce qu'il est dans les lignes avant, les lignes arrière, parce qu'il doit taper les pénalités ou je ne sais quoi, ou qu'il doit travailler le sprint. Pour les élèves, c'est pas du tout comme ça. On dit qu'ils vont s'exercer, sauf qu'ils ont tous à peu près la même chose à faire. Ce qui est prendre le travailleur de la classe comme si c'était un travail qui devait présider à une évaluation. Dire que, en général, on donne les mêmes types d'exercices, soit qu'il s'agit de faire une évaluation, à ce moment-là, on comprend bien que ce soit le même pour tous, soit qu'il s'agisse de faire exercer les élèves, à ce moment-là, on a du mal à comprendre que ce soit le même pour tous, puisque c'est supposé que les élèves sont arrivés au même état de cognition des travaux qui ont été faits dans la classe. Mais faute de porter un diagnostic avant de donner les devoirs sur le type d'exercice qui est donné, on va évidemment donner la même chose pour tous, s'acquittant là davantage de la fonction sociale du travail, si vous suivez mon raisonnement, que du travailleur de la classe, que de sa fonction cognitive. Voilà. Donc, dès qu'on se met à déplier le travail qui est donné le soir, on a un écheveau de choses pas clair du tout, dont les enseignants ne sont pas très fiers d'ailleurs quand on les interviewe, qui disent bah, « finalement je sais pas pourquoi j'en donne parce qu'on en donne, parce que si j'en donnais pas, j'aurais peut-être les parents d'élèves sur le dos, etc., et la direction ». Alors, ça renvoie à la question de faire cours ou faire apprendre, hein, qui a été notamment pointée par Bernard Charlot, disant « les enseignants sont convaincus qu'ils sont là pour faire cours, en fait ils sont là pour faire apprendre, et lorsque ils donnent des devoirs, est-ce qu'ils sont là pour continuer le cours, au sens où il s'agit parfois de le finir parce qu'il n'a pas été fini, parfois d'anticiper sur ce qui va venir, etc., c'est-à-dire pour l'enseignant dans une logique qui est totalement celle de la leçon ? Ou est-ce qu'ils sont là dans une logique de faire apprendre qui, cette fois, n'est plus celle de la leçon, mais celle de ce que les élèves ont acquis de la leçon et de ce qu'ils n'ont pas acquis. Vous voyez, on pourrait jouer à démonter ça. Lorsqu'ils donnent du travail à la maison, ils sont dans un travail de prescription, mais qui, comme ce travail n'est pas effectué sous leurs yeux, leur interdit de prendre des indices sur l'activité réelle des élèves. Donc voilà, à mon avis, un autre aspect de l'externalisation. C'est que nous sommes dans du travail qui est supposé être scolaire, sauf qu'il n'a plus de rapport immédiat avec ce qui est appris dans le cœur de la classe et qui doit être vérifié et conforté et retravaillé. Parce que comment sait-on ce que savent les élèves si on ne les voit pas travailler ? On va lire les devoirs, certes, mais beaucoup d'enseignants vous disent « moi d'ailleurs je ne les corrige même plus, d'abord parce que je n'ai pas le temps, ça me retarde, et ensuite je ne sais pas si c'est mes élèves qui les ont faits. Donc pourquoi vous en donnez ? J'en donne parce qu'on en donne, et on revient à l'étape précédente. Spécificité ou généricité, c'est encore une autre manière de regarder. Les élèves pensent souvent que les devoirs sont donnés les uns après les autres jour le jour et qu'il faut s'en acquitter. Certains enseignants pensent qu'il y a une progression et que quand on travaille tel point ou tel exercice, en réalité, certes, on est dans le spécifique, mais on est dans le générique. On est dans l'apprentissage de telle ou telle abstraction. Et ça suppose qu'on rentre dans une temporalité longue. Voilà. Les élèves, par rapport à cette pression et aux difficultés, ont des stratégies classiques, hein, stratégies de go-between, bien analysées par Pernoud il y a déjà un certain nombre d'années à propos du métier d'élève. Ils sont souvent dans des positions d'acquittement d'eux-mêmes par rapport à l'institution. S'ils peuvent sortir de l'aide au devoir avec le label « le devoir a été fait, l'enfant a donné satisfaction », ils sont très contents, on les comprend. Et eux-mêmes, ils donnent quitus à l'institution, hein, « tu me donnes des devoirs, je les fais ». Mais ils peuvent aussi dénaturer l'exercice, hein, le rendre plus facile. C'est les stratégies notamment de restandardisation des tâches, hein, dont parle Anne Barrère chez les lycéens, dont je parle aussi à propos de la dissertation de philosophie. Les élèves savent parfaitement qu'on ne doit pas écrire l'introduction avant d'avoir fait la dissertation et qu'on écrit l'introduction à la fin. Lorsque vous leur demandez comment ils font, ils vous disent « je commence par faire l'introduction ». Il dit, mais on t'a pas dit, mais bien sûr, comme on l'a dit, la consigne, ils la connaissent par cœur, mais pourquoi tu le fais pas? Parce que c'est trop dur, j'arrive pas. Et donc, je restandardise, hein, je vais faire l'introduction. Et puis, si je peux avoir 12 citations que je vais citer dans l'ordre ou dans le désordre, que je vais apprendre par cœur le jour du baccalauréat, je vais ils disent pas qu'ils vont restandardiser la tâche, mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils tuent l'exercice, hein, en s'abritant derrière des boucliers aussi puissants que sont Platon, Descartes, Aristote. Ce qui fait que les profs de philo passent leur temps à dire, c'est pas de la philo qui corrige, et les élèves dire, mais c'est pas de la philo non plus qu'on fait en classe. Voilà, match nul. Nous sommes là dans des dénaturations d'exercices qui font que plus personne ne s'inquiète de ce que 70% des élèves n'ont jamais la moyenne à l'écrit de philo du bac. C'est pas gênant. On est dans le mythe social. Il y a de la philosophie. Napoléon III a fait la bêtise de la supprimer en 1862. Et les profs sont encore traumatisés de ça, alors qu'ils étaient bien petits à l'époque. Le tout, c'est qu'on la maintienne. Est-ce que les jeunes sont philosophes? C'est une autre histoire. Ils en feront avec leurs copains, ou c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Les parents partenaires, ça aussi, ça fait partie du relationnel d'aujourd'hui. Comme nous l'explique Pierre Perrier, les parents de milieux populaires en particulier ont été tenus très longtemps à l'écart de l'école. Aujourd'hui, on ne dit pas du tout de revenez, et aidez vos enfants à réussir, bien sûr. Avec quels moyens? Ça, c'est une autre question. Lorsque des chercheurs, je pense à Séverine Kakpo, hein, qui a soutenu une thèse il y a 2 ans de ça maintenant sur la question des devoirs à la maison, en particulier de la lecture à la maison. Donc, vous pourrez trouver un chapitre dans l'ouvrage « Faire ses devoirs » que vous verrez en bibliographie. Séverine Kakpo s'installe dans des familles d'origine immigrée populaire. Et ce qu'elle voit en gros, et je vais vous donner quelques petits extraits de son travail, c'est que le problème des familles d'origine populaire, d'origine immigrée, c'est pas tellement qu'elles auraient du vide cognitif, c'est qu'elles ont là aussi du trop-plein. On n'est pas dans du handicap socioculturel, on est dans de la divergence socioculturelle. Et qu'elles ont tendance, lorsqu'elles s'occupent du travail de leurs enfants, contrairement à ce qu'on peut imaginer, elles s'en occupent. Évidemment, elles se sentent souvent défaillantes, au primaire un peu moins, au collège, elles commencent à être délégitimées. On imagine mal le sentiment de délégitimation, de déqualification symbolique qui est la demande à ces familles-là de collaborer avec le travail de l'école. Je crois que l'institution devrait y réfléchir un peu. On se rend compte qu'elles vont développer auprès de leurs enfants des didactiques familiales, pour les appeler comme les appelle Séverine, des curriculums familiaux, qui sont souvent liées à la scolarisation qu'elles ont eue elles-mêmes, totalement transformée aujourd'hui. Le paradoxe étant que ces familles d'origine immigrée se sentent parfois les véritables dépositaires de la véritable école qui a été galvaudée par les méthodes pédagogiques contemporaines. Dire qu'ils soutiennent très fortement Brighelli et l'idée qu'il faudrait resanctuariser l'école par rapport à des théories pédagogiques qui circulent aujourd'hui et qui sont que c'est pas forcément un élément de clarification des malentendus socio-cognitifs. Voilà l'exemple sur lequel je vais rester. Séverine a eu une des techniques qu'elle a utilisées dans son travail, c'était de soumettre à des familles le même type de scénario pour voir comment elle l'interprétait. Alors voilà. On va s'arrêter sur un scénario et on verra deux mères de famille qui s'expriment. En classe, Aline travaille sur un texte qui raconte l'histoire d'une petite fille qui s'est enfuie de chez elle. L'enseignant lui demande, à ton avis, que va-t-il lui arriver dans la suite de l'histoire? Aline répond, je n'en sais rien, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. Ça donc, Séverine a pris ce scénario parce qu'il est assez caractéristique d'élèves qui peine à rentrer dans la fiction scolaire selon laquelle il faut raconter une histoire. Donc on est dans de la secondarisation, pour parler comme Elisabeth Bautier, on est là en train de construire un texte comme texte et pas en train de raconter sa vie. Et ça fait partie d'un malentendu assez puissant dans le travail sur les textes, dans le travail de littératie, pour employer cette expression contemporaine. Et là, Aline manifestement dérape, croit qu'on lui demande de s'exposer, de parler à titre personnel, alors qu'on lui demande de parler à titre d'auteur, c'est-à-dire dans un sujet épistémique qui suppose un type de construction bien particulier, etc., etc. Augustine, à qui ce scénario, donc qui est une maman d'élève, en réalité une tante d'élève, à qui ce scénario a été soumis, n'est pas d'accord avec la réponse formulée par Aline. Un enfant, elle devait savoir qu'un enfant qui fugue peut tomber sur un malfaiteur. L'enfant écoute les informations, l'enfant sait très bien qu'un enfant qui fugue de sa maison peut rencontrer un bandit de grand chemin, tu vois. Comment qu'on appelle ces gens-là encore? Oui, les gens qui tuent les enfants, les pédophiles. Oui, les pédophiles. L'enfant peut tomber sur des pédophiles, l'enfant peut tomber sur des clochards qui peuvent le tuer aussi. C'est pour ça que l'enfant peut tomber sur n'importe quel cas. Donc c'est très dangereux de fuguer. C'est très très dangereux de fuguer. Donc pourquoi elle a une mauvaise note exactement? Elle a une mauvaise note parce qu'elle doit savoir que quand on fugue, on peut faire de mauvaises rencontres. On ne doit pas fuguer. Un enfant qui veut quelque chose, il doit demander et ne doit pas faire des caprices parce que sur la route, on peut rencontrer n'importe qui. On peut se faire tuer à n'importe quel moment, même sans faire exprès, quelqu'un peut. L'enfant se trouve aux alentours d'une bagarre et le coup part, et c'est elle qui meurt dans l'affaire. Quand quelqu'un fugue, il s'expose à beaucoup de risques. C'est ce qu'elle aurait dû répondre. Alors, Aline n'est pas en train de faire l'exercice, mais on peut imaginer quand on voit le soubassement socio-culturel de la maman ou de la parente référente, comment l'exercice peut être traité comme support de considérations à caractère essentiellement moraux, qui sont pas précisément le présupposé de l'exercice demandé par l'enseignant. Voilà, deuxième cas, mais il y en aurait des milliers. Fatima, je vais vous dire quelque chose. Les enfants, c'est pas des sorcières, jamais, jamais. L'enfant, ça dépend de l'éducation, ça dépend de ce qu'il voit chaque jour. Mais tous les enfants, ils sont une page blanche, un cœur ouvert pour l'amour, pour apprendre les meilleures façons de vivre. Si l'enfant, il est méchant, c'est pas de leur faute, c'est la faute des parents, de l'entourage. Donc, pour moi, il n'y a pas de sorcier. Un enfant sorcier, ça n'existe pas, non. Mais là, elle travaille sur une histoire. Est-ce que dans les histoires, dans les contes, on ne peut pas avoir des enfants qui deviennent des sorcières, des sorciers? Non, non, non. Les enfants, c'est adorable. Les enfants, c'est quelque chose qui est magnifique. On donne l'amour et ils nous donnent l'amour. C'est pas possible. Voilà, j'ai perdu mon texte. Voilà. Non, n'importe quelle nationalité, pardon, n'importe quelle origine, n'importe quel enfant, il est toujours adorable et toujours une feuille blanche, un cœur ouvert. Non, non, moi, je suis contre. D'accord, mais il peut y avoir des histoires dans lesquelles les enfants deviennent... Non, ça n'existe pas. Dans les textes qu'on lit à l'école, dans les histoires, non, c'est toujours adorable. Moi, si vous me voyez avec les enfants qui viennent avec leur père ou bien avec les parents au Monoprix, moi, je l'adore, c'est adorable, j'adore les enfants. Si j'avais la possibilité, je vais avoir 10. Oui, je l'adore. Non, non, les enfants, jamais être sorciers. C'est nous qui font les sorciers, les grands, pas les petits. Voilà. Donc, sans commentaire, hein, j'arrive... tout de suite à cette conclusion provisoire, c'est que nous essayons de travailler cette notion aujourd'hui sous le terme un peu pompeux et abscond de porosité de la forme scolaire. Si la forme scolaire, c'est la manière particulière qu'on a d'apprendre à l'école, et malgré ce qu'on peut appeler le déclin de l'institution ou le déclin du programme institutionnel, cette forme scolaire est aujourd'hui très puissante. Je fais d'ailleurs remarquer souvent qu'elle est d'autant plus dure qu'elle est en vigueur dans des systèmes du système éducatif qui sont prestigieux. Je veux dire que les élèves qui s'entraînent à rentrer dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont soumis à une forme scolaire qui est une rigidité assez importante, hein, où on n'hésite pas à donner des infusions de travail assez considérables, et où la pédagogie invisible existe sans doute intellectuellement, mais de manière beaucoup plus discrète sur l'action qu'on exerce sur les personnes. Donc la porosité de la forme scolaire ne veut pas dire que les exigences scolaires n'existent plus. Ce que ça veut dire, c'est que à la fois l'école a réussi, et ses modes de pensée et de faire ont imprégné la quasi-totalité de la société. Les chiffres et les lettres, la dictée de Pivot, etc. sont des exemples assez classiques qu'on peut donner pour montrer cette réussite qui n'a pas toujours été acquise. Mais à l'inverse, évidemment, vous ne pouvez pas avoir porosité dans un sens sans qu'il y ait porosité dans l'autre. C'est-à-dire que des manières de faire dans la société sont aussi rentrées dans l'école. Et que les malentendus sont sans doute d'autant plus puissants et potentiels que les élèves, comme on le dit parfois, ne sont pas spontanément transformés en élèves. Il faut apprendre à devenir élève dans l'école. Et cette question de porosité, qui doit être, je crois, regardée de près aujourd'hui, est une difficulté importante pour que des élèves s'y retrouvent, surtout lorsque l'école, voulant se rapprocher de leurs univers de vie, le fait à la fois avec des motivations tout à fait intéressantes, mais risque de les induire en erreur, puisque précisément il faut les faire travailler sur des objets proches, tout en les apprenant à les reconstruire comme des objets scolaires, ce qui ne va pas de soi. Le deuxième point de vue, mais vous avez bien vu qu'il sous-tendait mon exposé, c'est que prendre ces questions-là par la question des statuts, c'est-à-dire savoir quel doit être le service d'un certifié, est-ce que c'est devant les élèves, derrière, pendant, après, que doivent faire les familles, qui doit intervenir, où c'est, tout ça c'est tout à fait important, sauf que je pense que ça ne peut pas se régler directement à partir de la question des statuts, mais d'abord à partir de la question de comment on fait pour apprendre et comment on fait pour apprendre à tel type d'élèves. Or, je crois que le débat public de ce point de vue n'est pas vraiment sur cette longueur d'onde. Il est... Et c'est normal, parce qu'il y a des traductions institutionnelles de ça à certains moments. Il est de savoir qui doit faire quoi, charte d'accompagnement à la scolarité, qui sont les chasses préservées de qui, comment on essaie d'harmoniser les acteurs les uns par rapport aux autres. Mais quelles sont les boucles didactiques, c'est-à-dire comment transite le savoir entre le cœur d'apprentissage collectif, dont on peut continuer à penser qu'il est fondamental dans les apprentissages, malgré les appels à la personnalisation à outrance des apprentissages aujourd'hui, comment ça transite de l'école à ce qui n'est pas elle et comment ça y revient, de préférence bonifiée. Travailler sur cette boucle didactique me paraît le véritable point d'Archimède, hein, beaucoup plus que la division de parts de marché pour savoir qui peut faire quoi dans ce type de processus, parce que les statuts ne permettent pas de régler la question des contrats pédagogiques, des contrats didactiques qui sont à l'intérieur de ces choses. Voilà. Quelques éléments bibliographiques. J'ai été un peu long, je vous prie, m'en excuser, mais vous avez encore 20 minutes pour me poser toutes sortes de questions indiscrètes.